Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les médecins seraient-ils en voie de disparition dans certaines régions françaises ? On observe depuis plusieurs années de grandes disparités géographiques. La région PACA compte 419 médecins pour 100 000 habitants, par exemple, alors que la Picardie n'en compte que 260, pratiquement moitié moins. Et à l'image de la Picardie, ce sont plus de 640 zones identifiées comme en difficulté ou fragiles en termes de présence médicale. Et cela risque de ne pas s'arranger, puisqu'un sondage commandité par le Conseil national de l'Ordre des médecins montre que 63% des étudiants et 60% des jeunes médecins n'envisagent pas de s'installer en zone rurale. En raison des fortes exigences de disponibilité requises, certainement, et également conséquence de l'isolement à la campagne. Alors, que faire dans une société française qui aura de plus en plus besoin de soins, conséquence de l'allongement de la vie, et des soins à domicile en priorité ? Les mesures incitatives pour une installation des médecins en zone rurale sont-elles suffisantes ? Faut-il contraindre les jeunes médecins à exercer à la campagne les 5 premières années d'exercice ? Faut-il mieux rétribuer ces médecins ? Ou la solution est-elle dans un maillage géographique des maisons de santé dont les premières ont vu le jour en 2005 ? Pour répondre à ces questions et esquisser de possibles solutions, Guy Valencien est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, vous êtes urologue, professeur à l'Université Paris-Descartes, membre de l'Académie nationale de chirurgie, correspondant de l'Académie nationale de médecine et secrétaire général du Conseil national de la chirurgie. Vous vous consacrez en dehors de vos activités à la réorganisation de systèmes de soins en France, dans le cadre de différentes missions ministérielles, et vous avez participé à la rédaction du rapport, vous en étiez même le rapporteur, du rapport sur le bilan des maisons et des pôles de santé et les propositions pour leur déploiement. Nous en parlerons assez longuement au cours de cette émission. Guy Valencien, démarrons par vos impressions, si vous le voulez bien. Est-ce que, selon vous, l'exercice de la médecine en France est au bord de l'asphyxie ?
Ah, vaste sujet. Vous abordez la question de façon abrupte et vous avez raison, parce que quand on vous entend en ce qui concerne la désertification médicale, encore faudrait-il savoir ce que doit faire un médecin au XXIe siècle. Et c'est toute la question du rapport au métier par rapport au nombre de professionnels dont il faudrait disposer sur le territoire. Si on regarde bien, le médecin aujourd'hui assure un nombre de tâches importants qu'il n'a pas à faire et qu'il pourrait déléguer, première chose. Donc dire, nous sommes en train de manquer de médecins, il manque des médecins dans les campagnes, et non pas uniquement dans les campagnes, mais aussi dans les banlieues notamment, voire parfois dans les centres-villes. Tout cela ne rime à rien si, je le répète, on ne redéfinit pas le rôle du médecin. Si on sait que véritablement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée d'un médecin par rapport aux autres professionnels de santé ? Cette valeur ajoutée, elle est celle qui consiste à penser que dans une société très bloquée par les normes, de plus en plus, vous savez que la médecine est entourée, nous avons des guides de bonnes pratiques, la Haute Autorité de Santé nous dit de faire ci ou ça dans tel cas. Bref, nous sommes de plus en plus bordés dans notre activité médicale. Si on considère que cette activité bordée peut être pratiquée par des personnels non médicaux, que reste-t-il au médecin ? Eh bien, ce qu'il reste au médecin, c'est justement, et c'est là sa valeur ajoutée, être capable de déroger aux règles et de dire pour un malade donné, je vous connais, au-delà de votre maladie, de votre pathologie, je sais où vous habitez, qui vous êtes, quel est votre milieu socioculturel et professionnel, votre famille, et je pense que pour vous, tel traitement est meilleur qu'un autre, même si ce n'est pas la règle. Et c'est là la valeur ajoutée du médecin, cette valeur ajoutée, je dirais, a pour fréquence d'action de l'ordre, on est dans l'ordre de 5 à 10% de cas où il faut jouer autrement que les guides de bonne pratique qui nous sont imposés. C'est la seule valeur ajoutée du médecin. Et la deuxième, pardon, s'il en existe une autre, ce n'est pas la seule. La deuxième, c'est bien sûr la confiance que peut apporter le malade à son médecin de par le secret professionnel. Le médecin prend en charge, porte sur ses épaules littéralement le malade, le temps de la guérison, voire de l'accompagnement vers la mort. C'est vraiment les deux plus beaux rôles du médecin. Tout le reste peut être fait par des professionnels non médicaux.
Dans le rapport que j'ai pu citer au début de cette émission, il y a justement une partie consacrée à la création de nouveaux métiers qui seraient satellites à celui des médecins. Quels seraient ces nouveaux métiers qui pourraient être créés au regard, en vous écoutant à l'instant ?
Ces métiers sont en nombre, puisque aujourd'hui, entre l'infirmière Bac plus 3, et le médecin Bac plus 12, nous n'avons pas de métier intermédiaire assistant qui aurait une formation type Bac plus 5, 4 ou 5, c'est-à-dire un niveau master. Aujourd'hui, l'infirmière est au niveau de la licence, le médecin est au niveau du doctorat. Il nous manque les personnels au niveau master qui peuvent être du reste des personnels infirmiers reformés pendant une année ou deux pour acquérir une spécificité professionnelle supplémentaire. C'est essentiel. On a dégradé toute la chaîne de soins sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, l'infirmière, dans 50% des cas, quasiment les infirmières libérales notamment, assurent des soins, des toilettes, ce qui est le rôle des aides-soignantes. Le médecin généraliste prend l'attention, ce qui est le rôle de l'infirmière. Le spécialiste fait le diagnostic, ce qui est le rôle du médecin généraliste. Donc la chaîne de soins s'est totalement dégradée. Il faut la remonter. Et je pense dans ce sens que nous n'avons pas besoin d'être trop nombreux comme médecins. Si on injecte dans les années qui viennent, et une formation d'un an ou deux de plus n'est pas énorme, à l'université, si on injecte ces personnels dans le circuit de l'organisation des soins, immédiatement, je pense que les médecins vont être libérés d'un certain nombre de tâches et qu'ils vont se consacrer à ce que je vous disais, c'est-à-dire à la valeur ajoutée dont on a parlé.
Alors, effectivement, vous parlez d'un nombre de médecins qui ne doit pas forcément être très élevé, mais il faut quand même un nombre important d'infirmières, d'aides-soignants et d'autres métiers qui pourraient se créer. On est face quand même à un déficit chronique de ce personnel. Alors, que faut-il faire? Parce qu'on ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
On est face à un déficit chronique, je n'en suis pas sûr. Nous sommes face à une désorganisation lamentable. Là, c'est clair. À l'hôpital tant en ville, et chacun pense qu'il fait bien en utilisant son téléphone et portable et sa bienveillance. Mais l'organisation du système sanitaire français en matière médicale est déplorable. Déplorable. Les acteurs courent dans tous les sens, ne savent pas à qui s'adresser, et ce sont les malades qui en pâtissent, parce que quand vous voyez le parcours qu'il faut pour assurer un diagnostic et puis ensuite des soins, c'est très compliqué. Nous n'avons pas su passer de l'artisanat médical du médecin généraliste installé dans sa maison du village et dont la femme assure la plupart des tâches secondaires gratuitement. Nous n'avons pas su passer de cet artisanat médical à l'industrie du soin. Et lorsque je milite pour l'industrie du soin, évidemment, des voix s'élèvent en disant « ça y est, on va standardiser, on va perdre le rapport humain, l'industrialisation, c'est le staccanovis, la marche forcée ». Faux. Quand vous regardez toute l'activité humaine en dehors de la médecine, elle s'est industrialisée. C'est en industrialisant que, premièrement, on améliore la sécurité. Prenez les transports aériens, prenez les voitures qui sortaient des usines il y a 60 ans, 50 ans après la Deuxième Guerre, n'avaient pas la sécurité de celle d'aujourd'hui, on le sait. Donc, l'industrialisation améliore la sécurité. Et deuxièmement, une industrialisation bien menée permet de rendre le temps perdu, notamment par les médecins, à l'écoute lente et à la compréhension du malade. Aujourd'hui, on peut très bien personnaliser une industrie. Quand vous savez qu'un modèle, et je suis désolé de comparer la médecine à une industrie automobile, mais vous regardez une chaîne de montage d'une marque française, quelle qu'elle soit, vous avez à peu près pour un modèle donné, prenez ce que vous voulez, une Mégane ou une Peugeot X machin, vous avez en moyenne 200 000 modèles différents. Votre voiture n'est pas la mienne. Avec toutes les options, elle est personnalisée. Donc l'industrie s'est personnalisée aujourd'hui. Elle cherche de plus en plus à personnaliser. La médecine, elle, doit commencer par s'industrialiser pour mieux personnaliser son action.
Alors, on entend bien votre véhémence. Abordons, si vous le voulez bien, la partie géographique, le maillage, la répartition de ces médecins. Il y a quand même des déficits, il y a des grandes disparités selon les zones géographiques. Je le disais en préambule, en général, on cite la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un nombre assez important de médecins, alors que
la Picardie.
La pauvre Picardie contre la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'accéder à des soins de qualité quand on habite à la campagne?
Ah, ce n'est pas si simple. Là encore, vous savez, bon, quand on compare PACA à Picardie en termes de région, qui a raison? Est-ce que c'est là où il y a, semble-t-il, surpopulation médicale? Ou est-ce que c'est là où il y a sous-population? Je n'en sais rien. Qui a raison? Ce sont peut-être les Picards. Faut-il un nombre de médecins déterminés d'abord dans une région? C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Je suis convaincu, je le répète, que nous n'avons pas besoin de beaucoup de médecins. Les Français ont été habitués, de par les remboursements de la sécurité sociale, à sonner leur médecin pour un oui ou pour un non. Il faut bien voir les choses. Alors, on s'étonne dans les villages. Je ne peux plus avoir accès à mon docteur. Voilà ce que disent les gens. Parce qu'ils viennent, ils appuient sur la sonnette. Docteur, est-ce que je peux vous voir? Effectivement, pour 22 euros remboursés, quasiment en totalité, on sonne quand on veut pour un oui ou pour un non. Il y a donc une éducation à faire. Nous sommes très particuliers. Dans la plupart des pays européens, ça ne se passe pas comme ça. Et on ne sonne pas le médecin pour un oui ou pour un non. Donc, il y a, je dirais, une inflation de demandes inutiles. Remettons un peu d'ordre. Et je pense que cela passe par une réorganisation avec notamment des corps intermédiaires, des assistants qui pourraient déjà, en partie, assurer une partie des prestations, rassurer la population, l'aider au diagnostic avant d'aller consulter le médecin.
Mais est-ce que vous tenez le même discours face à une famille qui s'est installée à la campagne avec de jeunes enfants et qui a besoin d'aller voir un médecin et qui, là, qui est obligé de faire une trentaine de kilomètres avant de trouver un médecin qui potentiellement pourra prendre cet enfant pour une visite? Est-ce que vous tenez ce même discours?
Mais oui, bien sûr. Attendez, d'abord 30 kilomètres, on ne ferait pas 30 kilomètres pour trouver un généraliste en France, on ne sait moins. On fera peut-être 30 km pour un hôpital, mais pas pour un médecin généraliste. Et deuxièmement, vous savez très bien que les Français savent se déplacer lorsqu'ils veulent faire des courses. Ils n'hésitent pas le samedi ou le dimanche à être dans les grandes surfaces à plusieurs kilomètres de chez eux sans hésiter. Ça ne les gêne absolument pas. On veut en France avoir le SAMU sur son paillasson. Ce n'est pas possible.
Alors venons-en à ces maisons de santé. Vous avez été le rapporteur d'un rapport à ce sujet pour essayer de faire le point sur l'efficacité, la manière dont ça pourrait être déployé sur l'ensemble du territoire. Peut-être commençons par un point de vocabulaire. Quelle est la différence entre les maisons de santé, le pôle santé et les centres de santé?
Pour être clair et concis, centre de santé ou dispensaire, je dirais, et maison de santé, même combat. C'est-à-dire réunion de professionnels médicaux et paramédicaux sous le même toit pour exercer ensemble en complémentarité. Que ce soit des centres ou des dispensaires qui sont en général municipaux ou mutualistes ou des maisons de santé organisées généralement à partir d'un groupe de médecins libéraux. Et les pôles de santé, ce sont des médecins libéraux qui ne se regroupent pas, ils continuent à exercer généralement seuls ou à deux et mutualisent certaines réflexions dans le cadre de réunions de concertation. Mais il n'y a pas la dynamique qui existe avec la maison de santé où véritablement les acteurs sont ensemble et peuvent voir un malade l'un après l'autre, échanger, partager. Les pôles de santé sont probablement une structure de transition entre le médecin isolé qui est en train de terminer sa carrière, c'est fini, il n'y aura plus de médecin isolé sauf exception, et les médecins regroupés dans les maisons de santé.
Mais alors, est-ce que ça fonctionne bien, ces maisons?
Tout dépend de qui les organise et comment elles sont gérées et si la population en est contente. En général, on s'aperçoit qu'elles ont beaucoup de succès quand elles marchent parce que les personnes, la population peut s'y adresser de 8h du matin à parfois jusqu'à 10h du soir, selon les endroits. Il y a toujours quelqu'un, un médecin, un professionnel de santé pour recevoir. Il y a une organisation, il y a un dossier médical partagé commun. Vaste problème qui soulève toutes les questions en passant de la CNIL au Conseil de l'Ordre. Arrêtons ces histoires. Aujourd'hui, sur Internet, je reçois personnellement chaque semaine des dossiers entiers de malades. Personne ne s'affole de se dire que ça a traversé les ondes et la Terre pour savoir si le spécialiste peut répondre à la question. Les malades sont prêts et à la limite pour résoudre cette question, semble-t-il, épineuse qui affole un peu tout le monde. Eh bien, il suffira que lorsque une personne contactera la maison de santé pour la première fois, on lui demande si elle accepte que son dossier soit mis sur ordinateur et partagé par les professionnels. Si c'est oui, eh bien on aura la liberté de le faire, car c'est le malade qui décide, c'est son dossier. Et si c'est non, eh bien on ne le fera pas. Mais ce non va représenter 0,1% des patients.
Alors Guy Valencien, si vous voulez bien, on marque une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cet entretien passionné. Tout de suite. De notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Guy Valencien, avec qui nous parlons des maisons de santé, de la réorganisation du système de santé en France, ou en tout cas le travail de médecins, qu'ils soient généralistes ou infirmiers, personnel de santé. Nous étions dans ces maisons de santé, Guy Valencien, vous nous les présentiez, vous nous faisiez la différence entre ces maisons de santé et ces pôles de santé et ces centres de santé. Dans le rapport que vous avez rapporté à la ministre de la Santé, il y avait des petites choses à revoir. L'aspect juridique, l'aspect administratif, vous en avez parlé rapidement. Et puis également, la rétribution des médecins. C'est un problème aussi chronique, la rétribution des médecins.
Oui, bien sûr. Alors, prenons d'abord peut-être le point juridique. Il est clair qu'aujourd'hui, créer une maison de santé est compliqué, demande beaucoup de temps. Il faut créer parfois plusieurs sociétés civiles, qu'elles soient immobilières, de moyens et autres. Et les rapporteurs souhaitent qu'il y ait un statut unique, je dirais, maison de santé, qui permettent que les acteurs s'y retrouvent avec un gérant, bien sûr, et puis des répartitions des rôles dans le cadre d'un règlement intérieur qui serait défini par les acteurs eux-mêmes. Surtout ne pas tout envoyer de haut, comme on le fait en France. Laissons les acteurs s'approprier leur propre outil de travail pour faire le mieux possible auprès des populations. Alors, sur le plan des rémunérations, bien sûr, on voit que on sait aujourd'hui, je crois que plus personne ne le conteste, même certains syndicats médicaux qui n'ont pas forcément une vision très avancée de nos métiers, le paiement à l'acte est mort parce qu'ils ne payent que l'acte aidant. Or, les médecins font beaucoup plus que des actes. Ils ont une partie administrative, ils ont une partie de surveillance, d'éducation thérapeutique, de prévention. Tout cela n'est pas payé par le soi-disant acte. Donc, il faut en finir avec le paiement unique et isolé à l'acte. Il faut arriver à un mixte de rémunération, qu'elle soit forfaitaire ou même de salaire, et bien sûr d'une partie à l'acte. Parce que si on veut que les médecins continuent à travailler et à être actifs, il faut leur donner cette possibilité de faire. Et si vous salariez totalement quelqu'un dans ce type de métier, vous risquez fortement de dégrader la productivité. Le mot n'est pas grossier, je ne parle pas d'industrie, mais nous sommes dans une productivité médicale nécessaire, puisqu'en gros, ce sont quand même les moyens financiers mis à disposition par les citoyens en France qui payent les médecins. Il faut bien comprendre que la médecine libérale est morte dès les premières ordonnances de 1945. Elle est morte, puisque la médecine est subventionnée. Les vrais métiers libéraux aujourd'hui, ce sont par exemple les architectes, ce sont les avocats. Et là, vous avez des architectes et des avocats qui sont quasiment smicards. Il n'y a pas un médecin smicard. Nous sommes subventionnés. Qu'il s'agisse des hospitaliers ou des libéraux, c'est l'argent public des cotisations des Français qui paye les médecins. Donc, il est logique que le payeur ait le droit de regard sur la façon dont on va payer les professionnels de santé à partir de l'activité qu'ils ont et surtout de la qualité de cette activité. Notion nouvelle, on peut évaluer ce que fait un médecin. On peut évaluer ce que fait un médecin et ce que fait un chirurgien. Et ils devront, chacun d'entre eux, être financés, reconnus en fonction de leur activité, mais surtout de la qualité de cette activité. Changement considérable.
Mais est-ce que tout ce que vous nous dites est une utopie douce ou est-ce que réellement on pourrait arriver à changer ce fonctionnement actuel ?
Il ne s'agit pas d'abord d'une utopie douce. Je crois que les utopies sont toujours violentes parce qu'elles vont très loin dans la provocation et dans le changement des paradigmes. Mais si vous regardez l'Angleterre, ce pays dont on a considéré qu'il était vraiment lamentable au point de vue médical parce qu'à un moment, effectivement, les Anglais venaient se faire opérer en France parce qu'il y avait des listes d'attente extrêmement longues dans le cadre du National Health System anglais. Regardez aujourd'hui, lorsque Tony Blair s'est rendu compte du désastre de son système, il a considérablement modifié les choses, bien sûr en injectant des milliards, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on peut reconnaître que l'Angleterre est sans doute un des modèles les plus intéressants, ainsi que les pays du Nord, en termes d'organisation médicale. Et vous voyez que les médecins sont évalués et payés en fonction de leur activité et de la qualité de cette dernière. Il y a des critères qui sont définis par eux, reconnus par le National Health System, et c'est là-dessus qu'on les paye.
Cela voudrait dire que le Conseil national de l'Ordre des médecins devrait distribuer des bons points aux bons médecins et des moins bons points aux moins bons médecins en fonction d'une rétribution en conséquence ?
Ce n'est pas le rôle du Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre a juste à s'occuper de la déontologie, il n'a pas à s'occuper en soi de la qualité. Il n'est pas fait pour juger de la qualité médicale. Les autorités qui peuvent agir dans ce sens sont les universités, les facultés de médecine, bien sûr, et la Haute Autorité de Santé, dont c'est un des rôles importants, mais pas le Conseil de l'Ordre.
Alors revenons à ce maillage. Je reste attachée à ce maillage géographique. Vous nous avez expliqué que ce n'était pas forcément très important d'avoir beaucoup de médecins sur une petite zone et d'en avoir moins sur une autre zone. Mais parmi les questions que je citais au début, je posais la question de savoir s'il fallait forcer, inciter, le mot n'est pas le même, forcer ou inciter les jeunes médecins à exercer pendant les 5 premières années à la campagne, dans des zones où il y a peu de médecins. Est-ce que ça, ce serait une bonne solution ?
Réorganisation sur le territoire. Alors, bien évidemment, on rentre dans la loi hôpital, santé, patient, territoire. Et j'aurais préféré que la loi rajoute aussi hôpital et ville, puis la médecine praticienne de ville, les médecins généralistes, mais elle s'en occupe maintenant. Et ce maillage dont vous parlez est le suivant. On part des maisons de santé, où on regroupe les professionnels qui vont assurer les prestations sanitaires sur des bassins de population qui seront de 5 000 à 25 000 habitants. Une maison de santé de 8 à 10 médecins et de 20 autres professionnels ou 25 autres professionnels, c'est une véritable entreprise médicale. C'est une petite PME, c'est un petit supermarché médical. Et à la limite, je souhaite qu'il soit installé près des zones de commerce où justement la population va. Pourquoi faut-il que le médecin soit isolé dans son village alors que tout le monde va faire des courses dans les grandes surfaces? Et à partir de ces maisons de santé, vous aurez la possibilité, dans les villages les plus reculés, d'avoir des lieux où les médecins ou les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers et les assistants médicaux, pourront aller, pas forcément chaque jour, mais peut-être 2-3 fois par semaine. Ou vous pourrez le faire avec des cabinets mobiles qui tourneront dans les campagnes les plus difficiles, en sachant que tel jour passe le médecin. Bon, ça irrite un certain nombre de mes confrères qui me disent « Nous ne sommes pas les charcutiers, les bouchers. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons le droit de transporter, grâce à la télémédecine, les outils les plus pointus dans la ferme la plus reculée du plus petit hameau de France. Et quand vous avez un bus santé qui est relié par téléphone satellite et non pas par portable simple, parce que les antennes, il n'y en a pas partout, avec tous les moyens, électrocardiographie, échographie, on peut même embarquer les matériels de la biologie. Et avec des infirmiers et des infirmières qui vont assurer une prestation et des médecins qui peuvent patienter, on a tous les outils de la modernité pour porter la prévention, le soin et l'éducation dans le coin le plus reculé de France. C'est parce qu'on ne veut pas le faire.
Mais vous citez la télémédecine, elle est encore balbutiante.
Mais ça vient, on sait, si vous voulez, regardez au Canada, dans l'Ontario, le périmètre d'action d'un généraliste dans la région des Lacs. Là-bas est d'environ 100 km, hein, 100 km de diamètre. Qu'y a-t-il? Des personnels dédiés, de ce qu'on appelle les nurse practitioners, c'est-à-dire des infirmières praticiennes, donc des assistantes qui assurent dans les villages un nombre de prestations. Et le malade peut être en contact par vidéoconférence avec son médecin qui est à 80 ou 50 km de là. Arrêtons de penser qu'il faut toucher le docteur tous les jours. Hein. Fini les écrouelles, c'est lui en fait qui les touche. Oublions, nous sommes encore dans une médecine traditionnelle alors que le monde a complètement bougé. D'où la fracture, d'où le mal-être des personnels de santé qui n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont modifié leurs pratiques et nous avons tous soit créé, soit participé au progrès de notre métier avec la science et les techniques qui ont vraiment fait bouleverser notre pratique. Mais nous n'avons pas su nous réorganiser et nous restons artisanaux dans un monde qui a largement dépassé l'industrie, qui est post-industriel aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si votre discours est entendu. En tout cas, il y a la réalité qui est la suivante, c'est qu'on sait que dans 10 ans, d'ici 2019-2020, il y aura une baisse du nombre de médecins, une baisse de 10%. Et parallèlement, on est en train d'ouvrir le numerus clausus pour qu'il y ait un peu plus de médecins et qu'il y ait des médecins plus nombreux d'ici 2020. Donc, il y a quand même un décalage entre ce qui se passe actuellement et votre discours,
mais,
si vous me permettez.
Écoutez, oui, mais ça, c'est récurrent. On sait que les responsables politiques, en permanence, subissent la pression des différentes corporations médicales, dont le discours est parfois assez réactionnaire. Moralité, on fait cette espèce de yo-yo permanent entre, tout d'un coup, par exemple, dans les années 80, il y avait beaucoup trop de médecins. On pensait qu'il y avait beaucoup trop de médecins. On est au taux de 80. Donc, on a réduit. On est passé de 8000 étudiants en médecine à 3500. En se disant, bah, tiens, on va les réduire, comme ça, ça coûtera moins cher. Faux, faux. Et puis maintenant, on s'aperçoit, hop, on a réaugmenté le numerus clausus parce qu'on se dit, on va en manquer dans 20 ans. Donc, on joue sur des durées extrêmement longues d'une génération, mais on a toujours faux. Il faut réduire le nombre de médecins, mais il faut injecter dans le système ces nouveaux corps de métier que la population réclame tant et qui font un travail fantastique. Nous le savons, puisque les expérimentations ont eu lieu en France. J'ai participé à l'une d'entre elles. Et je peux vous dire qu'il y a une adhésion totale de la population à ces assistants médicaux.
Alors, on parle des médecins libéraux. Parlons de cette différence entre les médecins qui exercent à l'hôpital et ceux qui sont en libéral. Aujourd'hui, un étudiant qui termine ses études de médecine, j'imagine qu'il préfère devenir libéral plutôt que de travailler à l'hôpital. Il y a un déficit, il me semble, dans les hôpitaux?
Non, je ne crois pas. C'est un problème à la fois, il y a un problème de caractère, parce que s'installer, poser sa plaque, il faut oser, et se dire qu'on attend que le malade arrive, et donc c'est un engagement. À l'hôpital, vous avez une clientèle qui est plus facilement fournie, parce qu'on vient à l'hôpital. Mais je ne pense pas qu'il y ait de différence, en tout cas dans la pratique. Nous sommes formés de la même façon, dans les facultés de médecine, et c'est après que l'exercice change. Y a-t-il pas assez de médecins hospitaliers, pas assez de médecins libéraux? Non, je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. D'autre part, je pense qu'on peut arriver à ce que les deux s'entendent. Aujourd'hui, il y a cette espèce de barrière entre les hospitaliers qui considèrent que les libéraux sont des commerçants et les libéraux qui considèrent que les hospitaliers sont disons, sont des planqués, voilà, aux Aulmont, des planqués.
Mais vous nous avez parlé de supermarché quand même, oui, pour ces médecins libéraux.
Mais bien, non, mais attendez, quand je dis, je vous décris la structure, je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un commerce. Je disais, je vous décrivais quelle structure il faut utiliser. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça m'apparaît, je dirais, d'arrière-garde. De plus en plus, les médecins, du reste, s'aperçoivent qu'ils font le même métier. Et de plus en plus, la jeune génération a envie de travailler ensemble, hospitaliers et libéraux, sans cette espèce de vision rétrograde et de différence caricaturale qui existerait entre les deux types d'exercices.
On marque une deuxième pause, si vous voulez bien, Guy Valencien. On se retrouve dans la troisième partie de notre émission dans quelques instants. Suite de notre émission éclairage, toujours en compagnie de Guy Valencien. Dans cette troisième partie d'émission, Guy Valencien, j'aimerais qu'on reste un peu à l'hôpital. Là aussi, vous pourrez peut-être me contredire, mais il me semble qu'il y a des médecins étrangers qui viennent dans les hôpitaux parce que là encore, on manque de médecins.
Il n'y a pas que l'hôpital où l'on fait appel à des médecins étrangers. Il y en a aussi dans les campagnes, notamment.
Il me semble que leurs diplômes sont reconnus à l'hôpital, mais ne seront pas reconnus que libéral.
Non, s'ils font partie de la communauté européenne, ils peuvent s'installer. Il y a un certain nombre de nouveaux pays de la communauté européenne donc, qui permettent l'installation de ces médecins. Vous avez même des pays de la communauté européenne qui forment des médecins français qui ont été collés à la première année et qui peuvent ensuite revenir s'installer en France parce qu'ils auront un diplôme européen. Alors, en ce qui concerne les étrangers, deux réflexions. D'abord, il y a des hommes et des femmes très capables. Ne croyons pas que parce que les médecins sont formés en dehors de la communauté européenne ou dans certains pays de la communauté européenne, je dirais à faible développement, que ces médecins sont mauvais, loin de là.
Ma question n'était pas xénophobe.
Hein. Non, mais je dis qu'il y a, puis il y en a aussi, notamment en matière chirurgicale, qui ne sont pas forcément formés dans les traditions que nous connaissons. Il faut le reconnaître aussi. Alors, que se passe-t-il? Vous avez à la fois 50 000 jeunes français qui se présentent en fin de première année de médecine, pour qu'on en reçoive 7500. Donc, vous voyez la chute, c'est du 14% de reçu. Et lorsqu'on est en première année pour la première fois, c'est du 10%. 1 sur 10 va passer en deuxième année. Et puis, si on compte les redoublants, ça fait du 14%. Donc, on se pose la question de savoir pourquoi on sélectionne à ce point des futurs étudiants en médecine qui rêvent de faire ce métier. On les sélectionne sur quoi? Sur les sciences dures, physique, mathématiques, statistiques, ce qui est absurde, puisque c'est un métier avant tout de relations, de communication, de compassion, d'aide à la personne. Et moi, j'ai fait moi-même philo. Et j'étais dans la section des cancres. À l'époque, ça s'appelait la physique, chimie, biologie, le PCB. La première année, nous étions les minables. On nous donnait une section où on nous faisait faire un petit peu moins de sciences dures. Je suis ravi parce que j'ai continué mes études. J'ai pu les continuer. Aujourd'hui, je dis qu'il faut aller chercher les étudiants en médecine français à partir du bac, quel que soit ce bac. Il faut prendre les meilleurs, ceux qui ont les mentions, mais ça peut être en lettres, ça peut être en sciences, ça peut être en bac technique. Un chirurgien peut très bien venir d'un bac technique. Nous avons donc tout faux. Nous collons des gamins qui rêvent de faire ce métier et on va en même temps chercher des personnels étrangers. Vous mesurez le drame. On devrait véritablement et très vite modifier la première année de médecine. C'est en train de se faire. Valérie Pécresse inaugure une première année où dès les premiers 6 mois, si l'étudiant a vraiment des très, très mauvaises notes, on va lui dire « Écoute, ne reste pas et fais autre chose ». J'aurais souhaité personnellement que l'on crée des véritables prépas santé dans les lycées, pour tous les métiers de santé, et que les tout jeunes puissent comprendre ce qui va se passer et se disent « Oui, ça me va ou ça me va pas ». J'aurais préféré faire ça pour leur éviter cet échec de la première année avec redoublement, parce qu'en général, ils font ça 2 fois. C'est insupportable, 2 ans de perdu pour n'avoir aucun diplôme. Donc la ministre a bien joué en disant « On va arrêter plus tôt pour ceux qui sont très mauvais ». Leur donner des passoires pour repartir sur d'autres formations. Pendant ce temps-là, effectivement, on fait appel à des médecins et à des chirurgiens étrangers dans un certain nombre d'hôpitaux pour lesquels il faudrait peut-être se poser la question de savoir s'il faut maintenir les services. Je pense à la chirurgie, mon métier. Il y a encore des hôpitaux en France où véritablement la pratique chirurgicale est trop incertaine, notamment en nombre d'actes par an, pour qu'on puisse les garder. Et c'est dans ces hôpitaux-là, souvent, où sont ces médecins et chirurgiens étrangers, car les Français ne veulent pas y aller. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème, d'où la notion, là encore, d'un numerus clausus en termes de nombre d'interventions minimales qui serait d'entre 1500 et 2000 actes opératoires par an pour qu'un service de chirurgie puisse rester ouvert, ce qui est logique. Ça a fait l'objet d'un autre rapport que j'avais remis à l'époque à Xavier Bertrand, qui avait fait beaucoup de bruit sur le sujet, puisque nous avions compté à peu près 113, nous avions compté même très précisément 113 fermetures de blocs opératoires, pas d'hôpitaux. Attention à la dérive. On n'a jamais dit qu'on fermait un hôpital, mais de fermetures de blocs opératoires qu'on pourrait remplacer par d'autres services très utiles aux populations.
Vous êtes un médecin chirurgien qui est favorable à la fermeture de ces blocs opératoires. C'est assez rare quand même.
Écoutez,
je précise.
Nous avons 8000 salles d'opération en France. Si je vous disais que globalement, par rapport au nombre d'interventions, il y a 6 500 000 interventions chirurgicales par an. Donc vous voyez, ça fait de l'ordre de 1,8, à peu près 2 interventions par jour par salle d'opération. C'est inadmissible. C'est un gâchis humain et financier considérable. Il faut donc concentrer les hommes et les matériels sur des plateaux techniques modernes qui puissent évoluer régulièrement. Et là, ça passe par effectivement une réorganisation territoriale qui permette que les malades puissent être transportés. La chirurgie, on n'est pas opéré. On n'est pas forcément opéré dans sa vie. Et c'est en moyenne 4 à 5 jours d'hospitalisation. Ce n'est pas la mort de faire 30 ou 40 kilomètres pour cela. Alors que le soin chronique, le suivi des addictions, les pathologies comme le diabète, l'hypertension, la rééducation fonctionnelle, la dépendance, la gériatrie doivent être des médecines de proximité et donc doivent pouvoir être traitées dans les maisons de santé et voire même dans les fermes, jusque dans les fermes. Ça oui, mais pas la chirurgie.
Alors restons encore sur ce décalage, ou en tout cas cette différence entre hôpitaux et médecine libérale, entre hôpital et médecine libérale. Et n'y a-t-il pas un risque avec la pénibilité du travail, car c'est un travail quand même qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. N'y a-t-il pas un risque que ces jeunes médecins étrangers, peut-être, viennent en France et on leur donne des postes dans les hôpitaux parce que c'est plus pénible et de ce fait, les médecins français, eux, optent pour une médecine libérale peut-être un peu moins pénible?
Je ne sais pas, vous savez, la pénibilité, bon, vous parlez des gardes essentiellement, où d'un certain nombre de médecins étrangers assurent la quasi-totalité des gardes d'un hôpital. Mais là encore, faut-il se poser la question de la garde? Là encore, problème de réorganisation, faut-il qu'il y ait une garde dans chaque hôpital? Vous savez qu'à Paris, il y avait à l'époque, il y avait 12 services d'orthopédie à Paris. Ils étaient tous ouverts la nuit. Donnez-moi le nombre d'urgences orthopédiques à réaliser à Paris intramuros et à extramuros, puisqu'il y a des hôpitaux de l'assistance publique qui sont en dehors de Paris, par nuit. C'est de l'ordre de 1 à 2 cas de fractures ouvertes qui ne peuvent pas attendre. C'est minimal. On entretenait 12 équipes. Il faut assurer ce que fait, par exemple, la neurochirurgie, ce qu'on appelle la grande garde, où vous pouvez être amené aux urgences d'un hôpital donné, qui va par télémédecine envoyer toutes les données au centre de référence qui, ce soir-là, est l'hôpital un tel ou un tel auprès d'une neurochirurgie et qui dit « je prends » ou « non, ce n'est pas la peine, il n'y a pas opéré ». Il faut réorganiser. C'est ce qu'a fait la science publique sur les services d'orthopédie où il n'y a plus que 4 lignes de garde. Voilà la question véritable. La vraie difficulté, c'est qu'on sait que les lignes de garde payent les médecins en partie. Et quand on réduit le nombre de gardes, cela choque un certain nombre de mes confrères qui se retrouvent avec un manque à gagner. Donc c'est une question difficile à résoudre, mais il faudra le faire. Il n'y a pas de discussion. Nous ne pouvons pas gâcher l'argent public pour faire plaisir à certains.
Pour terminer, Guy Valencien, parlons des personnes qui travaillent avec les médecins. Je veux parler des infirmières, mais bien sûr, il n'y a pas qu'elles. Là aussi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les infirmières puissent travailler dans de meilleures conditions? Et aussi, est-ce que là aussi, c'est une question de réorganisation, comme
oui,
vous avez pu en parler tout au long de cette émission?
Oui, bien sûr. D'abord, réorganisation. Première chose. C'est vrai que les infirmières courent. Elles sont extrêmement dévouées. Mais vous savez, on parle toujours des infirmières aussi de façon, je dirais, dithyrambique. C'est un corps de métier très aimé de la population. Mais il y a un tas d'autres acteurs de l'activité humaine qui font un travail aussi utile et aussi important sans qu'on ne les encense tous les jours à dire que l'infirmière est la meilleure et la meilleure. Je dis non, les infirmières, vous en avez d'excellentes, vous en avez aussi qui sont détestables et qui ne savent même pas s'exprimer auprès d'un malade. Reconnaissons les choses. Cela dit, il faut réorganiser le métier. L'infirmière est très dérangée pendant son travail. Et on sait statistiquement qu'une infirmière qui est dérangée augmente son risque d'erreur, comme un médecin du reste. Donc il faut, là encore, que les médecins ne passent pas n'importe comment. L'interne passe à 8h du matin, le chef de clinique à 9h, le patron à 11h. Et puis à la contre-visite, on change tout parce que par hasard, ce n'est pas le même qui est venu ou qui a vu. Ça, ce n'est plus possible. Donc organisation des soins d'abord. Deuxièmement, profil de carrière. Il faut que les carrières des infirmières soient évolutives. Et dans ce cadre-là, le fait du LMD est tout à fait utile. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut créer ces corps d'assistants médicaux infirmiers qui vont de plus en plus prendre de part, de marché, je dirais, par rapport aux médecins, ce qui inquiète mes chers confrères. En Angleterre, elles font des rectoscopies, elles peuvent regarder l'intestin avec une optique. Elles font des échographies aux États-Unis. Vous avez des infirmiers opérateurs qui prélèvent les veines saphènes pour aller faire les pontages cardiaques. Ce sont eux qui le font. Bref, nous sommes là encore très en retard. Une profession médicale accrochée à ses prérogatives et ne voulant pas déléguer, des personnels infirmiers prêts à le faire en partie. Je pense qu'il faudra un peu de courage politique pour y arriver, mais une mission vient d'être lancée par la ministre, et je la salue, sur ce sujet, par Roselyne Bachelot, sur les nouveaux métiers de la santé. C'est indispensable, c'est urgent, et c'est comme ça qu'on résoudra la pseudo-crise dont on nous parle.
Le message est lancé, Guy Valencien, merci. Je reprécise le titre du rapport sur lequel je me suis quand même essentiellement basée pour réaliser cette émission, le bilan des maisons et des pôles de santé, les propositions pour leur déploiement. Un rapport que vous avez, dont vous étiez le rapporteur, que vous avez rédigé avec deux autres personnes, on peut peut-être les citer.
Oui, le rapport a été réalisé avec le sénateur Jean-Marc Juillard, sénateur du Puy-de-Dôme, avec Mme Bérangère Crochemort, qui était la présidente du syndicat des internes en médecine générale, et avec Mme Annick Touba, qui était la présidente du syndicat des infirmiers et infirmières libérales.
Réorganisation, c'était donc le mot, le titre, le terme important de cette émission, réorganisation de la pratique de la médecine. Merci Guy Valencien, et j'espère à bientôt pour deux prochaines émissions. Au revoir.
Au revoir.